rivage, oublie ton lointain visage. Qu'une neige, une planche de salut, vend du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublie ton lointain visage.
Écoutez les grosses têtes
sur Bel RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui fait son grand retour dans l'émission après avoir fait Danse avec les stars. Ouais. C'était notre bébé à nous et puis bon, il a grandi là-bas en dansant chaque semaine.
Oui.
Roman Dodhuit.
Bonjour tout le monde.
Il est revenu avec du poil au menton. Une grosse tête qui aime tellement l'opéra qu'elle n'utilise que les shampoings Garnier. Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui, jusqu'à la semaine prochaine, ne pense plus qu'à une ville qui s'appelle Bergame. Florian Gazan. On expliquera. Une grosse tête qui a fait de se barrer à La Rochelle une discipline olympique. Valérie Mérès. Bravo. Une grosse tête qu'on surnomme parfois le Méli-Mélomane, Olivier Bellamy. Bravo. Et une grosse tête qui doit être souffrant puisque ce matin sur TF1, il recevait Chantal Goya et on l'a pas entendu chanter.
Si, j'ai chanté.
Christophe Beaugrand. Ah ouais. Vous chanté
Pandit, panda, petit ourson de Chine. J'ai chanté, Bécassine, c'est ma cousine et tout.
Ce matin, un lapin.
Oh non, on va pas. Non. Écoutez, il y a eu assez que cette émission sur laquelle je suis tombé, effectivement, ce matin, l'émission de Bruce, tout ça. Je savais pas d'ailleurs lequel des deux pandas était le vrai.
Je lui avais dit à l'antenne, mais c'est vrai. Hein.
Ah oui.
Ah oui, il ressemble à un panda, il n'a pas besoin de déguisement.
Ah, c'est ça hein, le problème.
Mais il a les poils noirs et blancs comme un panda.
Ah bah, vrai. Regardez les poils de Roman Dodhuit.
Oui, il a une petite chatte au menton, c'est tout mignon, regardez.
Bon bah je reviendrai plus jamais dans cette émission, c'est fini.
Moi je trouve qu'il ressemble pas à un panda mais à une petite belette.
Moi une petite belette.
Oui, une petite belette.
Une loutre éventuellement.
Une petite fouine.
Comment ça se fait que ça a poussé pendant que vous étiez là-bas? Il vous donne de l'engrais à TF1?
Non mais j'étais avec une danseuse qui voulait me faire prendre un peu confiance en moi. Elle m'a dit mais laisse pousser la barbe et au final il y avait que le bouc qui est sorti. Mais
tu es devenu un homme donc ouais. Pendant cette aventure.
Mais il a mué en plus. Il a une voix.
Ben, vous feriez bien d'y aller.
De baryton.
Non mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe Danse avec les stars là,
écoute,
dans les
c'est
coulisses.
Génial, il y a des tangos argentins, des petites salopes, il y a tout ce qu'il faut quoi. On passe des moments formidables.
Ah t'as passé dans les coulisses.
Est-ce que c'est pas vous qui seriez, je pose la question parce qu'il y a beaucoup de grosses têtes qui ont fait Danse avec les stars à travers les saisons, Yoann Rioux, Ariel Dombal, Titoff, Jean-Marie Bigard, j'en oublie sûrement. Est-ce que c'est pas vous qui seriez pas allé le plus loin de tous?
Écoutez, j'avais qu'un seul objectif, c'est être la grosse tête qui va le plus loin de toutes les grosses têtes, et je crois que c'est le cas, c'est moi qui suis arrivé en finale. Ah, je suis la grosse tête qui suis allée le plus loin.
Bravo.
Même qu'Ariel Dombal.
Ah bah oui.
Oui, mais Ariel, elle pense encore qu'elle a gagné l'émission de toute façon, donc.
Oui. C'est-à-dire qu'elle a un soir été la meilleure, le troisième prime, je crois, et du coup, elle en est restée là. Elle pense qu'elle a été.
Elle pense qu'elle s'est arrêtée avec elle.
Voilà. Non, écoutez, alors, honnêtement, je le dis aussi à toutes les grosses têtes, c'est vraiment une émission que je conseille. Je sais qu'elle peut faire peur.
Ah non, pas du tout. Il y a l'air d'avoir une ambiance. Franchement, ça, pour détruire une carrière, c'est formidable.
Il a raison.
Mais vraiment, moi j'ai.
Et alors, vous avez des nouvelles de notre copine? Parce qu'il y a une deuxième grosse tête aussi.
Natacha Saint-Pierre?
Non, Christina Cordula quand même.
Elle
était vite éliminée, Christina.
Mais oui, moi chérie, je suis partie vite parce que j'ai mal à la côte.
J'ai mal à la côte, chérie, c'est incroyable. Dans Saint-Lestat, j'ai pas magnifique, j'ai pas tenu les trois semaines.
Ah non, moi j'ai été surpris.
Non, elle a.
Surpris par quoi?
Elle danse pas très bien.
Ah bah non.
Mais non, elle a tout déchiré.
Mais c'est pour ça que tu veux que je le fasse, c'est pour que je me casse une côte. Non, parce qu'il m'a conseillé de le faire. Il dit qu'on peut perdre 20 kilos.
Bah, il vaut mieux pour les porter.
C'est comme j'aime en fait.
C'est vrai que j'ai eu la trouille pour vous parce que déjà que vous étiez pas bien épais, je me suis dit mais on va pas le retrouver quand il va ressortir de là.
Ah mais attendez, moi à un moment j'ai fait un porté que j'ai raté pendant une des émissions. Je me suis niqué la colonne vertébrale. Les lombaires étaient complètement foutus, mais j'ai jamais vu autant sorte d'ostéo de toute ma vie, quoi.
Ah oui.
Ah ouais, c'est... Ah ouais,
ça donne vraiment envie de faire cette émission.
C'est non,
c'est ça. Tu veux me tuer.
Mais non, c'est fatigant, c'est épuisant, on se casse des trucs, mais je vous assure qu'on apprend des trucs sur soi. Moi, voilà, j'ai appris que.
Qu'est-ce que vous avez appris sur vous?
Bah, que le book, ça me va vraiment pas. Hein.
Bah, j'espère en tout cas que vous avez eu le temps de lire pour pouvoir répondre aux questions, parce que ça, je sais pas s'il y aura du changement de ce côté-là. C'était pas bien brillant avant, alors on va voir.
T'as bien fait de revenir.
On va voir si, par exemple, vous avez retrouvé l'auteur de cette première citation. C'est assez facile. Hein. La première, c'est toujours du classique pour Nathalie Girard, qui habite Bretteville l'Orgueilleuse. Mmh. C'est dans le Calvados.
Oh là.
Qui a dit « Dieu est peut-être éternel, mais pas autant que la connerie humaine ».
Coluche ?
Coluche, non.
C'est mort, Jean-Yann ?
C'est mort, non. Oui. Enfin,
c'est mort, et c'est de l'époque de Coluche.
Pierre Desproges.
Pierre Desproges, bonne réponse de Florian Gazan. Attention, une citation qu'on connaît bien, mais souvent elle est attribuée à tort et à travers, à droite, à gauche, j'ai envie de dire, et on n'en connaît pas l'auteur, celui qui fut le premier à la dire. C'est pour Laurent Douvier, qui habite Argenteuil, qui fut le premier à dire « Mieux vaut rester silencieux et passer pour un imbécile que parler et d'en laisser aucun doute.
» C'est français ?
Ce n'est pas français.
C'est américain ?
Ça a été traduit, en fait.
Est-ce que c'est mort ?
Et c'est américain, oui, mort assassiné, même.
Oh.
Ah, Kennedy,
JFK.
Pas Kennedy, mais on n'est pas loin.
Lincoln.
Abraham Lincoln, ah, oui. Bonne réponse collective. Pas d'ailleurs dans le même genre pour Patrick Louvier, qui habite Mers-sur-Indre, c'est dans l'Indre, qui a dit « La plus grande leçon de la vie, c'est que les imbéciles ont quelquefois raison. Ah. »
C'est français ?
Alors non, c'est pas français.
C'est belge ?
Anglais.
Ça, c'est britannique.
Britannique, hein, c'est ça.
Oscar Wilde ?
Pas Oscar Wilde.
Churchill.
Attendez, j'ai entendu un truc, j'ai entendu une voix d'adolescent.
Churchill.
Moi, j'essaie de tenter des trucs.
Vous avez dit quoi ?
Churchill.
Et c'est la bonne réponse.
Qu'est-ce que vous allez faire ?
Ben, vous voyez que ça vous a servi dans ça avec
les
stars.
Ça. Je vais peut-être toujours pas faire de portée, mais j'ai deux, trois bonnes réponses.
C'est bien parce que c'était effectivement Winston Churchill. Pour Charlie Marr, qui habite à Rennes, qui a dit « L'expérience est un peigne que nous donne la vie quand vous êtes devenu chauve ».
Pascal Obispo.
C'est joli, je trouve.
Ouais, c'est joli.
Ouais, c'est joli.
Alors ça, c'est français.
Alors ça, c'est très français.
Jean-Louis David.
Et c'est quelqu'un qui avait perdu. C'est quelqu'un qui avait perdu ses cheveux et
Choron.
Non, et qui du fait de sa naissance, et d'ailleurs je l'ignorais ou je l'avais oublié, était de nationalité argentine.
Mais ça se voit pas et son nom ne le
non.
Laisse pas supposer.
Alors vraiment
non
là, je suis en train de vous donner vraiment
Paul Claudel.
Une indication qui est.
Édouard Philippe.
Ne sert à rien.
Édouard Philippe. Non. Non.
Est-ce que alors, c'était un écrivain ?
Écrivain, oui. Non. Mais il était né à Buenos Aires.
D'accord.
Ah oui, c'est pas un metteur en scène ?
Metteur en scène, non.
Acteur ?
Acteur, oui. Son fils est metteur en scène, mais pas lui.
Il est mort, donc ?
Ah, non. Il est mort. Ah, oui. Le fils, non, mais lui, oui.
Bernard Blier.
Bernard Blier, oui. Bonne réponse de Valérie Mérès. L'acteur des Tontons Flingueurs.
Il était né en Argentine.
Eh bien oui,
Bernard Blier.
Ah ça, on peut pas imaginer qu'il était argentin. Oui, il avait même la double nationalité française et argentine, parce qu'effectivement, il est né à Buenos Aires en 1916, et c'est bien Bernard Blier qui n'avait plus beaucoup de cheveux, il faut le reconnaître, qui a dit l'expérience est un peigne que vous donne la vie quand vous êtes devenu chauve. Je trouve que c'est une très très jolie formule. Pour Christophe Cabaret qui habite Mauléon, qui a dit.
Elle voulait jouer Cabaret.
Quoi ? Ça y est, il a vu Chantal Goya, il s'en voulait lui.
C'est Patricia Cass.
Patricia Cass et toi aussi. Hein.
C'est ça. Mademoiselle chante le blues.
Ah non, non.
Elle a le gospel dans la voix.
Pour Monsieur Cabaret.
Mais elle y croit.
Monsieur Cabaret qui habite Mauléon, qui a dit « Je ne dis pas que cette femme est grosse. Je dis simplement qu'elle aurait été plus à son avantage si elle avait été photographiée par satellite.
» C'est très drôle,
c'est Coluche. Non, c'est pas Coluche.
C'est français.
C'est pas français.
C'est Gueluc.
C'est pas Gueluc.
C'est américain.
C'est américain.
Stephen Wright.
C'est Stephen Wright. Ah, bon. Bonne réponse de Florian Gazan. Et Florian Gazan, je profite de votre mémoire pour glisser une citation supplémentaire à l'attention de Monsieur Gourcuff, qui habite ici les Moulineaux, qui a dit aux enterrements, les Tahitiens portent des chemises à fleurs fanées.
Oh, c'est joli.
C'est poétique.
Henri Salvador.
Avouez que c'est drôle. Voilà.
Bah, c'est mignon. Kersauzon.
C'est pas Kersauzon.
Un écrivain.
Non, c'est quelqu'un qu'on cite très rarement. Et si je profite de la présence de Monsieur Gazan pour donner cette citation, ah, c'est parce qu'à mon avis, c'est le seul qui peut se rappeler du nom de celui qu'on cite rarement.
C'est Vincent Audiquet.
Et c'est Vincent Audiquet. Pas la réponse de Florian Gazan.
Les grosses têtes reviennent dans un instant sur Bell RTL.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné, pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. J'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Se regarde, peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pardonné, pardonné. Meilleur de ce qu'on était. Meilleur de ce qu'on était.
Vous écoutez les grosses têtes
sur Bell RTL.
Une première question d'actualité pour Laura Jourquin qui habite Argenteuil. Question qui fera plaisir à tous nos auditeurs portugais. Je profite de l'absence de Monsieur Toen. Il sera avec nous à Montluçon, Sébastien Toen. Mais ça tombe bien, c'est aujourd'hui les 50 ans de la révolution des œillets. Évidemment, la fin de la dictature portugaise. Le coup d'état militaire du 25 avril 1974 est célébré aujourd'hui. Toute la communauté portugaise qui nous écoute est évidemment touchée par cette anniversaire, cette révolution des œillets, 50 ans, jour pour jour aujourd'hui, 25 avril, il y a même un célèbre pont hein, à Lisbonne qui s'appelle le pont du 25 avril 1974, et en lisant toute la presse, parce que évidemment il y en a dans tous les journaux aujourd'hui, c'est la une de l'UMA, c'est une page entière dans le Figaro, des conseils de livres, mais j'ai appris quelque chose que j'ignorais encore, parce que moi j'étais persuadé que la révolution des œillets au Portugal il y a 50 ans, c'était la fin de la dictature de Salazar, le dictateur El Doctor et Salazar. Ouais. Mais pas du tout, il était déjà mort, Salazar, en 74. C'est quelqu'un d'autre qui était au pouvoir quand il y a eu la révolution des œillets.
Ah, c'est Giscard en 74. Ah, peut-être pas au Portugal.
Je parle au Portugal.
Ah oui, d'accord, pardon.
Et là, la, voilà la question difficile, parce que ce n'était pas Salazar. Salazar est mort, lui, en 1970 à Lisbonne.
Ah, Austerlitz.
Pouf. Du nord. Du nord. Nord, du nord.
C'est vrai qu'il est mort sans crier gare.
C'est pas Marcelo Caetano.
Excellente réponse. De Roselyne Bachelot. Alors là, bravo Roselyne.
Oui,
parce que c'est vrai que peu de gens le savent. Tout le monde pense que la révolution des œillets, c'est la fin du dictateur Salazar, alors qu'il était mort déjà depuis 4 ans. Et il avait eu un successeur qui s'appelait effectivement Marcelo Caetano. Bravo Roselyne. D'ailleurs, comment on appelle la révolution des œillets? Et ça, c'est une deuxième question assez difficile, je le reconnais. Comment on appelle la révolution des œillets en langue originale?
La révolution des œillaches?
Non.
Tiroli tiroula?
Non.
En bas, tiroli loriloli.
Parce que la révolution des œillets, c'est nous, ça, en France. Mais au Portugal, ils disent pas révolution
la
des œillets.
La valise en carton?
Ah non, non, non.
Mais vous êtes sûr qu'on connaît ce mot en portugais?
Ah bah, ça, c'est une question de culture, vous voyez.
Révolution?
Non, non, non.
Kenji Girac?
Non.
Est-ce que c'est le mot œillet en portugais qu'on cherche?
Ah bah un peu, mais en fait.
Ah, un peu. Ah, vous êtes, vous savez pas.
C'est pas une fleur, c'est deux.
C'est pas que je ne sais pas, c'est que justement j'ai vérifié et quand on regarde le mot tout seul, ça veut pas dire œillet, ça veut dire point noir, vous voyez.
La révolution du Chebom?
Non, non, non.
Ponte Negros?
Non, 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 non.
Punta Negra?
Non, non plus, non, non.
Ça ressemble à Point Noir, un petit peu?
Alors, ça ressemble pas à Point Noir, non, non, ah non, bon. Non.
Ça ressemble à Comédon.
Et effectivement, c'est révolution,
Clérasilo.
Exomedino.
Je sais pas comment on dit révolution.
Aknesh, Aknesh.
En portugais, ça s'écrit révolus, C-A-O, vous voyez.
Révolution.
Voilà. Révolution, dos, dos.
Acnéo juvénile.
Et effectivement, nous, on a traduit ça par révolution des œillets. J'imagine que c'est ainsi qu'on appelle les œillets au Portugal. Sauf que quand je suis allé chercher la traduction de ce mot, bah, ça m'a donné point noir et pas œillet. Alors, peut-être que c'est nous les Français qui avons. Eh ben oui, peut-être. Allez,
j'ai fait espagnol LV2, j'y arriverai jamais.
Peut-être qu'il y a des Portugais dans la salle, ils sauront nous aider quand vous aurez trouvé la réponse.
Ou s'il y a des gens qui ont des points noirs.
Ça, il y en a.
Ah ben oui, maintenant, plein. Je comprends pourquoi faut pas offrir des œillets à une actrice au théâtre.
Ah, c'est vrai que c'est pas
c'est
bien.
Vrai.
Parce que si vous lui offrez des œillets, elle se tape des points noirs après, c'est chiant.
Mais c'est drôle, on trouve plus du tout d'œillets chez les fleuristes.
Bah, c'est pas une fleur, c'est une fleur d'enterrement, les œillets.
Ouais, ouais. Un peu, ouais.
Alors, on n'a pas bonne
réponse. On dirait un chrysanthème qui a pas réussi sa carrière.
Ah, je sais plus à quoi ça ressemble.
C'est joli, ça, monsieur Gazon. Bah,
c'est un peu
je vais
fripé.
Garder, un jour, on fera une citation. L'œillet, c'est un chrysanthème qui n'a pas réussi sa carrière. Qui a dit ça. Ah,
oui. J'espère
qu'on gagne. Bonne réponse.
En 20 ans, c'est le premier truc bien que vous avez dit, monsieur Gazan.
Ben, rendez-vous dans 20 ans.
Non, mais c'est joli, je trouve.
Oui, merci.
Ah, vous me surprendrez toujours, Florian.
Vous voyez qu'il a du talent.
J'ai bien fait d'attendre.
Alors, avec ça, on a toujours.
Non, mais on n'aura jamais ce mot, Laurent.
Oui,
on va
non,
pas
enfin, écoutez, ça va être un truc à 300 euros.
C'est
ça.
Dans tous les journaux aujourd'hui.
C'est oui. Ça le point noir.
C'est le 50e anniversaire de cette révolution des œillets.
Mais déjà, le mot portugais n'est pas dans tous les journaux français.
Déjà, bravo, parce qu'effectivement, vous avez trouvé le nom de celui qui avait succédé à Salazar. Mais c'est lui qui était au pouvoir.
Voilà.
Alors, il était président du Conseil des ministres du Portugal jusqu'au 25 avril 1974. Il a quand même dirigé le pays pendant 5 ans, vous voyez.
Ouais, oui.
Jusqu'à... Et après, Macron, il s'est fait fouetter par des œillets, alors?
Les manifestants avaient mis des œillets dans le canon des fusils, c'est pour ça qu'on appelait ça la révolution
absolument,
des œillets.
Absolument, mais ça n'est pas ma question, merci Ariel.
Ah oui, non, enfin, moi je donne ma réponse.
Non, mais c'est intéressant.
Et puis je vous emmerde, là.
Oui, ça faisait soliflore, quoi.
Non, ma question, vous l'aurez compris, c'est comment on appelle en portugais la révolution des œillets, bah voilà.
Oui, révolution dos.
Si vous aviez un peu lu la presse aujourd'hui, révolution dos quoi, justement. C'est ça la question.
C'est en os. Est-ce que ça se termine en os?
Oui, ça se termine en os.
Consonne.
En os, avec...
voyelle.
Est-ce qu'il y a beaucoup de syllabes avant le os?
On va donner 300 balles et puis voilà.
Hein. Oui, c'est ça. Oui.
Écoutez, il y a deux syllabes, puisque vous me demandez, je vous
Flores.
Réponds. Flores, non, non, non.
Non, c'est en os.
Non, non.
Dos Santos.
Non, non.
Comment vous dites?
Dos Santos.
Ah non, Dos Santos.
Non, ça c'est mon plombier, ça c'est mon plombier. Non mais, nonos.
Non, écoutez, soyez gentil.
Bolos.
Dos Botos.
Bolos vous-même.
Nikos, Nikos, Nikos.
Non, Nikos non plus, non. Et Mikos encore moins. Enfin, écoutez, c'est important de connaître quand même le nom de la révolution.
Oh, oui.
On a, capital.
On a beaucoup, quand même beaucoup de Portugais qui nous écoutent.
Petos.
Comment vous dites-vous?
Petos.
Qu'est-ce qu'il lui arrive? Il a envie d'aller aux toilettes, c'est pas grave.
Il est constipé.
Qu'est-ce qui lui arrive?
Désolez-le. Bah, il se fait plus tout jeune, il faut qu'il aille aux toilettes après une demi-heure d'émission.
C'est le masculin de pétasse.
300 euros, bah alors écoutez, là, tant mieux pour notre auditeur, puisque la première réponse fut assez rapide avec Marcelo Caetano. C'était une question subsidiaire sur cette révolution des œillets au Portugal. Est-ce qu'on a des spectateurs portugais ou d'origine portugaise? Regardez.
Portugais.
Alors, je vais aller la voir.
Pour 100 euros, de quoi se payer un bon cosido et une bacalao à brasar.
Bon, alors, bon dia.
Bon dia.
Quel est votre prénom?
Ida.
Ida, quelle est votre réponse?
Kravos.
Comment vous dites?
Kravos.
Kravos. Et qu'est-ce que ça veut dire, Kravos?
Eh ben, point noir. Non, ça veut dire les deux.
Ça veut dire point noir et œillet.
Ouais, ouais, ouais.
Les deux en même temps. Ouais, eh ben, bravo, vous gagnez 100 euros.
Merci.
C'est bien la révolution dans Kravos.
Vous écoutez les grosses têtes
sur Bel RTL. Les grosses têtes répondent aux auditeurs.
Alors nous avons maintenant Clément qui va être le premier auditeur à intervenir après s'être inscrit sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Enfin, plus que vous inscrire, vous êtes carrément manifesté. C'est le but de cette adresse des grosses têtes sur rtl.fr. Bonjour Clément.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, c'est le public.
Bonjour le public, bonjour. Vous souhaite un...
Hola.
Le public vous souhaite un bon anniversaire, parce que je crois que c'est votre anniversaire aujourd'hui.
Tout à fait.
Il a quel âge ?
40 ans.
Il est jeune.
40 ans.
Un petit gamin.
Et 40 ans, et il voudrait évidemment une montre RTL comme cadeau, j'imagine.
Ben oui, parce que ça fait exactement un an que vous m'aviez promis déjà une montre RTL.
J'adore les auditeurs.
Ça ne suit pas.
Comment ça se fait, ça, que vous l'ayez pas reçu? Alors, pour vos 39 ans, je vous avais promis une montre pour vos 39 ans. Mais je vous avais dit, quand tu seras grand, je vous promets que vous la recevrez avant vos 50 ans, Clément.
Merci. Et du coup, si vous aviez un vieux stock d'almanach, vous pouvez les utiliser pour caler la montre dans le colis.
Il est drôle, Clément. Cyril, maintenant. Bonjour, Cyril.
Bonjour, Laurent.
30 ans que vous nous écoutez.
Ah oui.
Ça a commencé avec mes parents, oui.
Ah oui, donc quand même, vous n'êtes pas si vieux que ça, alors. Et vous nous écoutez un peu plus depuis une dizaine d'années, dites-vous.
Exact, oui.
Là, vous faites un convoyeur en ce moment.
En un seul mot ?
Voilà, convoyeur d'automobile, provisoirement.
Un convoyeur, ça peut aller avec un exhibitionniste abruti.
C'est ça, exactement.
Et c'est en convoyant que vous nous écoutez.
Voilà, c'est ça. Je m'amuse, si je puis dire, à régler les automobiles que je convoie sur votre fréquence pour pouvoir vous écouter.
Ah, parce que c'est bien, ça.
Ah, ça, c'est une très bonne idée.
Ah oui, mais continuez comme ça.
Convoyez.
Mais mettez RTL en toute présélection, la 1, la 2, toutes les radios.
Ça, j'évite, faut pas exagérer.
Ah, bah non.
Quand le client reprend sa voiture, il a RTL.
Mais attendez, vous voulez vraiment une montre RTL? Il faut mettre RTL.
Pourquoi pas, ou un almanach, si ça se fait.
Ah bah écoutez, un almanach RTL, c'est parti, parce que la montre, on n'est jamais sûr.
L'almanach, vous le mettrez dans la boîte à gants. Hein.
Merci pour votre prosélytisme, Cyril. Stéphie, maintenant. Bonjour, Stéphie.
Bonjour, Monsieur Ruquier. Bonjour, les grosses têtes et les auditeurs.
Alors, Stéphie, c'est comme Cyril, c'est sur son lieu de travail qu'elle nous écoute, mais elle, c'est un peu plus embêtant, n'est-ce pas, Stéphie, puisque vous êtes directrice d'un crématorium.
Oh, exactement.
Ah oui, mais
provoque quelques moments de gênance.
Bah, vous avez besoin qu'on vous remonte le moral, c'est pour ça.
Vous imaginez un peu.
Je peux vous remonter le moral, moi, si vous voulez.
Ah non, mais c'est incroyable. Vous écoutez les grosses têtes pendant que les familles sont en deuil dans le crématorium.
Exactement. Donc forcément, quand les familles arrivent et que je vous écoute, ça provoque quelques petits moments de gênance, on va dire.
Ah bah je comprends.
Ah bah ouais, ça mêle peu.
Mais c'est pas tout à fait la même ambiance, quoi.
En fait, vous accueillez nos anciens auditeurs, quoi. On vous les repris, là.
Non mais enfin, vous devez écouter avec un casque. Vous n'imposez quand même pas aux clients en deuil les grosses têtes pendant qu'ils sont en train d'attendre la crémation.
Eh bien, si.
Ah
ouais, c'est pas... Ils arrivent dans mon bureau, il y a des grosses têtes, effectivement, tout mon ordinateur en replay.
Non, mais c'est dans le bureau, c'est pas dans le lieu de la cérémonie.
Non,
voilà,
dans mon bureau, effectivement. Voilà.
Est-ce que vous leur demandez le contenu du cercueil RTL?
La valise est plus grosse.
Ah non, mais là, il fallait pas dire ça, parce que j'espère que vous êtes votre propre patronne, parce que si vous êtes supérieure, vous allez vous faire cramer. Enfin...
Non, c'est pour une collectivité, effectivement, s'ils le savent. Bon, ils comprendront qu'effectivement, on a besoin d'un petit peu de joie de vivre et des choses qui nous font.
Je comprends ça. Et je vais vous donner une montre RTL pour bien vérifier que le temps de cuisson est idéal. Elisabeth, maintenant. Bonjour, Elisabeth.
Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour, le public.
Alors,
bonjour,
vous voulez vous adresser à Monsieur Bellamy, Elisabeth.
Voilà. Très joli prénom, Elisabeth.
J'ai entendu la semaine dernière que Monsieur Bellamy disait qu'il n'avait pas de répartie, qu'il pensait qu'à la semaine suivante. Voilà. Alors, il y a une expression que j'aime bien qui dit que la répartie, c'est ce à quoi on pense quand on est reparti.
Oh, joli. Moi, j'appelle ça l'esprit d'escalier. Vous savez, c'est voilà.
C'est un dialogue intéressant.
Vous savez quoi, revenez la semaine prochaine tous les deux. Parce que pour l'instant, c'est pas passionnant.
Mes camarades prennent l'ascenseur et moi, j'ai l'esprit d'escalier. Qu'est-ce que vous voulez?
Donc, voilà.
Oh, vous êtes drôle. Quel joli duo, Elisabeth et Olivier.
C'est un peu les Shirley et Dino de 2024, vous voyez ça.
Faites quoi dans la vie, Elisabeth?
Humoriste.
Moi, je suis mosaïste.
Ah,
oui.
Ah, ah, bah, voilà. Bah, écoutez, tout s'explique.
Voilà, on a une mosaïque d'auditeurs, tous très différents les uns des autres, comme pour les grosses têtes. J'aime la mosaïque de mes grosses têtes, et monsieur Bellamy n'est pas là pour avoir de la répartie ou pour être drôle. Il est là pour qu'on se foute de sa gueule. Non, il est là parce que c'est le spécialiste de la musique.
Moi aussi.
Ben oui, vous aussi, Elisabeth. De toute façon, on est là pour se vanner, on est là pour rigoler, pour s'amuser et se détendre dans ce monde cruel, n'est-ce pas, Elisabeth?
Exactement.
La Poste va vous envoyer une montre,
mais Elisabeth. Quand... La montre, la Poste me l'a déjà apportée.
Ah, ben, on vous envoie de la répartie par Colissimo.
On est
qu'est-ce qu'on peut vous offrir, alors?
Ben, de la répartie.
Donc, je ne sais pas si vous avez un mug
et ben,
ou
voilà.
Un almanach.
Eh ben, un mug. Bien. Allez, un mug. Pour vous, ce sera un mug, Elisabeth. Et on passe à Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent. Laurent. Laurent, bonjour.
Bonjour
vous,
Laurent.
Vous nous écoutez, bah, je peux même dire vous m'écoutez alors depuis France Inter.
Ben oui, ben oui, moi je suis fidèle, j'ai commencé avec France Inter et j'ai atterri aux grosses têtes en oui, passant bah. Par Europe.
Bah, il m'est arrivé la même chose.
C'est fou, hein. Quelle coïncidence.
Et à l'époque, dites-vous, vous vous trouviez jeune par rapport aux intervenants, c'est ça?
Ben oui, c'est ça. Comme j'étais tout jeune et que les intervenants mécaniquement étaient un peu plus vieux que moi.
Et oui.
Et maintenant, c'est l'inverse.
C'est pas mon cas, alors. Ah.
Ben, c'est vrai que Romane Dodu, quel âge il a, Romane, d'ailleurs?
Eh ben, j'ai 25 maintenant.
C'est un peu notre petit Robinson à nous, vous voyez, Romane Doduic. C'est le plus jeune de la bande. Vous aimez bien les jeunes, quand même, Laurent?
Oui, bien sûr. Bah oui, oui. Puis la valeur n'attend pas le nombre des années.
Mais
donc,
c'est ça.
Tout à fait.
Alors, écoutez, voilà. Vous avez de la répartie, même si ce n'est pas la vôtre. Bravo, Laurent. Vous méritez bien une montre RTL.
Pour regarder le temps qui passe.
C'est pas vous le plus jeune, Doduic?
C'est pas, pas des grosses têtes, c'est Paul,
c'est
le plus jeune.
Ah, c'est Paul Elkarat le plus jeune.
Mais il danse moins bien. Hein.
Ah, faudrait essayer, Paul, à danser avec
ça. Ah ouais, c'est pas drôle.
Ça aurait de la gueule.
Des jeunes, des vieux, on aura tous les genres de grosses têtes à Montluçon. Demain soir, nous serons à Montluçon. Vous entendrez l'émission lundi, mais c'est à 19h demain, au théâtre Gabriel Robin, que mes grosses têtes, Sébastien Thoen, Liane Folie, Valérie Mérès. Faites le voyage, Valérie.
Oh, oui!
Jean-Philippe Janssen, Franck Ferrand et Az sera le plus jeune, Az pour le coup, de toute la bande. On sera à Montluçon demain soir à 19h. Et à cette occasion, je tiens à rappeler qu'il vous reste 24 heures seulement pour vous inscrire pour la super valise. C'est pas à vous les grosses têtes que je m'adresse, c'est à nos auditeurs. 15 000 euros cash à gagner dans la super valise. Il suffit de vous inscrire au 74 900 en envoyant le mot valise par SMS. Attention, seulement 4 SMS maximum par personne. 75 centimes le SMS. Et évidemment, tous ces centimes accumulés nous permettront de vous offrir 15 000 euros cash demain pour la super valise à Montluçon. Merci Laurent.
Les grosses têtes reviennent dans un instant sur Bell RTL. Moving through the doorway of a nation. Pick me up and shake the doubt. Baby, I can't do without. Don't mess around. You bring me down. How you get about? Don't make sense. Move out. I remember only for an hour. Move right to me. Can you feel? Oh,
Vous écoutez les grosses têtes
sur Bell RTL.
Le livre du jour.
Le livre du jour s'appelle Le crépuscule d'un dieu. C'est signé Michel Canesi, qu'on aura au téléphone dans un instant. Ou Canesi, je veux dire Canesi.
Canesi, oui.
Vous le connaissez mieux que moi, oui. monsieur Bellamy, puisque c'est vous qui m'avez conseillé.
C'est mon dermatologue. J'espère qu'il va pas me trahir.
Comment ça, c'est votre dermatologue?
On parlait de points noirs au début de l'émission, voilà. Voyez-vous.
Les dermatos sont les spécialistes des maladies vénérgènes.
Voilà.
C'est
merci,
justement.
Roselyne.
C'est justement le sujet du livre. Ah, puisque
les maladies vénériennes?
Non, Le crépuscule d'un dieu, c'est le crépuscule de Nouraïev, qui, on le sait, est mort du sida, et c'est un sujet grave et sérieux. Il était le médecin qui a accompagné Nouraïev jusqu'à la fin, le docteur Canesi, et il signe ce livre qui raconte les dernières années de Nouraïev, depuis évidemment le moment où Nouraïev a rencontré Michel Canesi jusqu'à sa propre mort à Nouraïev. C'est un livre évidemment bouleversant qui raconte comment jusqu'au bout Nouraïev a voulu être à la fois danseur et chorégraphe, exercer son art jusqu'au dernier moment. On aura le docteur Canesi dans un instant au téléphone. Il raconte tout ça dans Le crépuscule d'un dieu chez Plon. Et d'ailleurs, parmi les dernières volontés donc de Nouraïev, il y avait le fait qu'il souhaitait reposer à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et ce qui est assez incroyable et amusant, c'est cette phrase qu'il aurait prononcée à Michel Canesi, à son docteur Nouraïev. Évidemment, il se parlait en anglais, il parlait pas en français. Ce qui est d'ailleurs drôle dans le livre, c'est que le docteur donne les deux versions, en anglais et la traduction ensuite. Et Nouraïev a dit « Please, not too close to Serge Liffard », ce qui veut dire « S'il vous plaît, pas trop près de Serge Liffard ». Quel était d'ailleurs le point commun entre Serge Liffard
et... Ils ont été tous les deux directeurs de la danse à l'Opéra de Paris.
Oui. Chorégraphe et danseur, les deux.
Et danseur, oui. Et
ils ont tous les deux dansé le Spectre de la Rose.
Et c'était un ex, ils étaient ensemble?
Ah non. Ils se détestaient, j'imagine.
Bah oui, ça. Mais je sais pas... Il avait été directeur de la danse pendant l'occupation, je crois. Il y a eu une histoire un peu comme ça.
Qu'est-ce que vous vouliez dire? Parce que vous êtes arrêté en milieu de phrase.
On avait l'impression qu'il avait une oreillette et qu'on lui disait un truc, mais il n'en a pas. C'est très curieux.
Ou alors qu'il avait besoin de simplement ce qu'ils appellent des absences. Tu verras ça quand tu auras mon âge. Petit con.
Bon, je vais vous accorder la bonne réponse, en tout cas. Bravo, Olivier Bellamy. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Bonjour, Michel.
Et c'est vrai que Michel...
bonjour, Olivier.
Vous racontez cette dernière volonté. Et c'est vous, d'ailleurs, qui devez expliquer au conseiller juridique ce que ça voulait dire et pourquoi, parce que lui ne connaissait pas manifestement Serge Liffard, pourquoi, effectivement, Nouraïev ne voulait pas être trop près de son ennemi, enfin, un de ses anciens ennemis.
Oui, écoutez, j'ai relaté cette anecdote parce que elle démontre un côté assez méconnu de la personnalité de Rudolf Nouraïev, c'est son humour, son sens de l'humour. Parce que, voilà, quelques jours, quelques semaines avant sa mort, juste après la fameuse Bayadère du 8 octobre 92, qui avait ému tout le monde, parce que Rudolf a commencé sa carrière à Paris en 61, il est devenu une star du jour au lendemain en dansant la Bayadère. Et il termine sa vie en créant une Bayadère sublime. Je suppose que Madame Bachelot a dû la voir, et vous autres
absolument.
Aussi probablement. Ouais. Voilà, et c'est terminer sa vie comme ça, ça fait mentir un peu Monsieur Mitterrand, qui disait que chaque vie d'homme est une symphonie inachevée, et celle de Rudolf, manifestement, était une symphonie achevée, puisqu'il a il nous a donné en cadeau avant de partir cette merveille absolue. Mais je voulais vous raconter l'anecdote.
C'est d'ailleurs, je vous interromps, c'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres du livre que vous nommez ainsi. Toutes les symphonies ne sont pas inachevées.
Eh ben oui, mais pour Nouraïev, on peut considérer qu'elle a été achevée. Et le jour, je vous raconte l'anecdote parce que c'est vrai qu'elle est très drôle. Rudolf, quelques temps avant de mourir, a fait venir ses avocats des États-Unis pour régler ses affaires. Et l'avocat vient me voir et me dit, écoutez, est-ce que vous pourriez dire à Monsieur Nouraïev où il souhaite être enterré? Je dis, écoutez, monsieur, je suis médecin. Si vous avez votre médecin qui vient dans votre chambre en vous demandant où est-ce que vous voulez être enterré, je sais bien qu'on n'a plus beaucoup d'espoir, mais c'est quand même pas à moi de faire ça. Vous avez la possibilité de le faire. Je vous donne les trois cimetières à Paris qui sont dignes d'accueillir Monsieur Nouraïev, à savoir le Père Lachaise, le cimetière du Montparnasse et le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors il rentre dans la chambre, il ressort quelques minutes après et il me dit « Qui est, où est Serge Liffard ?» Je lui explique que c'est un ancien directeur de l'Opéra de Paris, un danseur, un chorégraphe. Et je lui dis, mais pourquoi vous me parlez de Serge Giffard? Parce que Nureyev m'a dit, not too close to Serge Giffard à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et donc, si vous voulez, moi, malgré la situation, je dois dire que j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, mon Dieu, Rudolf, quel sens de l'humour. Même dans ce moment dramatique, un peu tendu, il a trouvé le moyen de faire un bon mot. Voilà.
L'autre point commun que n'a pas réussi à dire monsieur Bellamy,
parce qu'il a eu une absence,
c'est que quand même Serge Giffard était d'origine russe, en tout cas ukrainienne, quand même. C'était ça.
On ne faut pas confondre.
Alors, on disait danseur russe à l'époque.
Effectivement, et figurez-vous que j'ai découvert ça récemment parce que je suis retourné me recueillir sur la tombe de Nureyev pour lui dire que j'allais écrire ce livre, ce récit qui relate 11 années d'amitié, de complicité et on peut presque dire d'amour, parce que sinon c'est une grande histoire d'amour, même s'il n'y a pas eu d'amour au sens physique. Et en allant sur la tombe de Serge Giffard, je voulais bien m'assurer qu'elle était bien loin de celle de Rudolf, ce qui est le cas, donc là ses volontés sont respectées. J'ai vu qu'il était né à Kiev. Donc c'était déjà presque les germes du conflit qui étaient là des années avant.
Et Serge Giffard a été naturalisé français, ce qui n'est pas le cas de Nureyev.
Non, Nureyev avait finalement la nationalité autrichienne. Peu de gens le savent, mais il était autrichien de nationalité.
Et vous racontez effectivement ces années pendant lesquelles vous étiez médecin confronté à l'épidémie, parce que c'était une épidémie terrible dans ces années 80-90 du sida, et effectivement vous avez accompagné dans toutes ces dernières années ce chorégraphe à qui vous avez dû annoncer d'abord dans un premier temps effectivement qu'il était séropositif, ensuite qu'il était atteint du sida, des choses difficiles, et là il vous a répondu aussi une chose incroyable quand vous lui faites cette annonce.
Quand je lui fais cette annonce, je vais vous dire qu'on était au début des années 80, on venait à peine de découvrir le virus, enfin tout ça est très... On était dans l'œil du cyclone, vous voyez, avec cette histoire. Et Rudolf me dit, on va faire un pacte, vous gérez ça, et moi pendant ce temps-là, je vais continuer à travailler. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que Rudolf a vécu une bonne dizaine d'années avec le virus et sans les traitements que nous avons heureusement aujourd'hui, mais il n'a pas eu la chance de les avoir, puisque les traitements sont arrivés en 96 et qu'il est décédé en 93, donc 3 ans avant. Mais cette espèce de pacte que nous avions tous les deux a très bien fonctionné pendant toutes ces années, et ça lui a permis de nous laisser tous les trésors qu'il nous a laissés, au répertoire de l'Opéra de Paris, entre autres.
Le crépuscule d'un dieu, c'est le crépuscule de Nureyev, le dieu de la danse à cette époque, c'est signé Michel Canesi, docteur, j'ai envie de vous appeler docteur. Est-ce que ça vous a posé un problème de conscience? Parce qu'au fond, quelque part, vous brisez le secret médical aussi avec ce livre.
Alors, d'abord, j'ai respecté sa volonté parce que Rudolf a voulu que les choses soient claires dès sa mort. D'ailleurs, si vous voyez le livre, il y a des photos à l'intérieur, vous avez la couverture de Newsweek, quand il est enfin, de nous dire que toute la presse a su que Nureyev était mort du sida.
Oui, parce qu'à l'époque, les personnalités ne le disaient pas, faut bien le rappeler.
Oui, ne le disaient pas. Ouais, mais vous savez, ils ne voulaient pas le dire pour une raison simple, c'est que à l'époque, l'entrée des personnes séropositives était interdite aux États-Unis. Il n'y a que Barack Obama qui a levé cette interdiction.
Hein. C'est vrai.
Donc, et c'est récent. Donc, c'était pour ça qu'il ne voulait pas être considéré comme un malade, il voulait être considéré comme le grand artiste, immense artiste qu'il était. Et j'ai attendu plus de 40 ans pour écrire ça, parce que je me suis dit que je tenais à livrer ce témoignage pour l'histoire. Parce que c'est pas une biographie, c'est vraiment...
Votre rencontre, votre amitié, effectivement, voilà. Vous lui précisez d'ailleurs qu'il n'était pas sexuel, même si à un moment donné, il essaie de vous draguer, vous dites, il vaut mieux que je sois un ami et un médecin plutôt qu'un amant, vous lui dites.
Bah, je lui dis ça, toujours avec humour pour faire passer la chose, je lui dis, je vais pas vous chanter vers du catalogue du Don Juan de Mozart en disant...
Le service.
Vous étiez quand même un tout jeune médecin, puisque là, c'était il y a 40 ans, vous étiez...
Vous aviez une trentaine d'années.
Ouais. Exactement, j'avais 30 ans quand je l'ai rencontré en 1982, je venais d'avoir 30 ans, tout frais moulu sorti de la fac de médecine.
Le crépuscule d'un dieu, c'est signé Michel Canesi et c'est chez Plon, c'était le livre du jour.
Et dire que maintenant c'est moi le dieu de la danse. Heureusement que je mets des préservatifs, hein.
side of this mountain of mine.
Écoutez les grosses têtes.
Sur Bel RTL.
Une question pour Claire Fleury de Pontivy. Où est-ce qu'on a trouvé du mou par terre?
Du mou pour le chat? Est-ce que c'est du mou pour le chat?
Ah non, c'est pas du mou. Du mou
devant
du mou.
La cave de Perrier.
Ah, pardon, expliquez.
Ben,
Merci.
Tu t'es aventuré, ça n'allait pas du tout, là.
Vous faites partie de la même école, Bellamy et vous, Mérès.
Ça, c'est les
non,
gens qui ont des absences.
Ça, j'ai dit
comment
ça.
Est-ce que vous écrivez mou? M-O-U-L-T?
Non,
M-O-U-T.
Non, mou, M-O-U.
Voilà, du mou.
Où est-ce qu'on a trouvé du mou par terre?
Ah, ben, c'est quand. Si, c'est quand Bellamy est tombé.
Oh, ça suffit.
Je sais pas si. J'ai vu du mou par terre dans l'entrée tout à l'heure.
C'est quand je me suis oublié, près des toilettes. Ça
non,
arrive.
C'est
pas du mou, c'est du flasque.
Quand j'étais chaude, là, sur le
quand
coup.
Quand vous étiez chaude,
oui.
À l'époque.
Oui.
J'étais proche de la réponse.
Je sais même plus ce que vous avez dit.
Elle a dit devant Perrier.
Perrier, elle a dit Perrier.
Mais non, rien à voir avec le Perrier.
On a trouvé du mou par terre, mais M-O-U.
M-O-U, oui.
Moi, je crois que je sais, le moulin rouge. Les ailes du moulin rouge qu'on a retrouvées par terre.
Réponse de Roman Dodduick.
Génial. C'est chouette, parce que je pense que j'avais fait un peu oublier à nos auditeurs que je suis dans cette émission quand même depuis le début. J'ai senti que là, ça faisait quand même quelques minutes que bon, j'étais un peu comme Bellamy, j'avais des absences. Mais j'ai trouvé le Moulin Rouge et ça, je pense.
Non, mais ça fait déjà la troisième fois qu'il essaie de coller cette réponse-là.
C'est vrai.
Les questions ne correspondaient pas. Et là, pif, paf, boum.
J'ai regardé les actualités ce matin, il n'y a que ça qui m'a intéressé.
Et mais il faut expliquer quand même, parce que
les ailes du Moulin Rouge se sont effondrées cette nuit.
Oui, mais ça n'explique.
Et c'est les trois premières lettres. Moulin Rouge, ils sont tombés.
Voilà la bonne réponse.
Bah ça, je ne l'avais pas.
Mais si, il n'y a plus que l'un rouge.
Il y a l'un rouge. Effectivement, les ailes du Moulin Rouge sont tombées, mais ça n'expliquerait pas ma question, ce qu'il fallait effectivement expliquer. Mais vous avez quand même trouvé une partie de la réponse.
Excellente question, patron. Comme elle est bien posée.
C'est effectivement, c'est qu'il n'y a pas que les ailes qui sont tombées. Les ailes sont tombées et elles ont emporté les trois premières lettres du Moulin Rouge, M-O-U, qu'on a retrouvé par terre.
Ça doit vous émouvoir, vous y avez longtemps travaillé.
Au mou, oui. Je les retrouve aujourd'hui.
Bah, on a de la chance, heureusement, il n'y avait personne parce que c'était très lourd.
Ah oui, ça s'est passé pendant la nuit,
à 2h du matin.
Enfin, normalement, place Pigalle ou place. C'est place Pigalle.
Oui, 3h du matin à Pigalle, normalement.
Il y a toujours du monde.
Ouais, mais il n'y a pas de mou.
Il y a de la moule rouge.
Ça dépend, quand ils ressortent, généralement, c'est mou.
Ouais. Bon, en tout cas, les ailes du Moulin Rouge sont tombées, les trois premières lettres du mou, effectivement, ça fait l'un rouge. On va les remettre, on va remonter le mou, n'est-ce pas, monsieur Bellamy?
Ah bah oui.
Tout à l'heure, on a évoqué la révolution d'un porte-couèche. Les 50 ans de la chute de la dictature. Alors, on dit toujours la dictature de Salazar, même si, effectivement, on vous a précisé en début d'émission que Salazar, lui, n'était plus là depuis 4 ans. Mais en tout cas, c'est évidemment la célébration de la liberté, de la démocratie pour le Portugal et tous les Portugais qui nous écoutent aujourd'hui. Ça tombe bien, parce que voilà quelqu'un, et c'est ma question suivante, pour Karine Perfillon, qui habite dans le Jura. Voilà quelqu'un dont le prénom était Judas. La maman portugaise, le papa italien, et c'est quelqu'un qui fut un célèbre violoniste et même chef d'orchestre. De qui s'agit-il ?
Roselyne ?
Roselyne ?
Non, c'est plutôt pour...
Olivier ?
Et c'est le prénom du musicien, Judas.
Alors Judas, pour tout vous dire, a changé de prénom pour devenir ensuite l'artiste qu'il était.
Ah d'accord. Jésus ?
Non. Et sa maman était d'origine portugaise, effectivement.
Et le père était ?
Elle s'appelait Ferreira, et le père était d'origine italienne.
Est-ce que le nom fait italien, justement ?
Alors le nom fait italien d'origine, mais lui, évidemment, il a changé, il a, on va dire, francisé son nom.
Ah, le nom de famille aussi ?
D'autant plus que lui est né à Bordeaux, voyez-vous.
Angelo Branduardi ?
Non. Non.
Roberto Benzi ?
Non plus.
Soyons sincères.
Non, mais il était violoniste, le...
Au départ, violoniste, premier violon.
Ouais.
Et chef d'orchestre.
Jacques Thibault,
non.
Oh la vache.
André Rieu.
Oh. Ah, Pino Latouca. Oh. Eh ben, il était chef d'orchestre de l'orchestre de l'Empire de Jacques Martin.
Bob Kimmel.
Un violoniste né à Bordeaux.
Le pianiste.
Pardon.
Un violoniste né à Bordeaux.
Chef d'orchestre, violoniste né à Bordeaux, d'origine.
Alain Lombard.
D'origine portugaise par sa mère, d'origine italienne par son père.
Mais français.
Et son vrai prénom était Judas. Et puis après, il a changé de prénom pour.
Il porte le nom de son père comme nom de scène.
Il porte le nom d'origine. Italienne de son père, même s'il a francisé son nom.
J'en connais une qui va gagner 300 balles.
C'est un chef d'orchestre.
Grâce à vous, en tout cas.
Oui, c'est ça.
Mais c'est à quelle époque ? C'est 20e ?
Ah, bah là, c'est quelqu'un qui est mort en 1910.
Et qui est mort en 1910.
Et qui était né à Bordeaux en 1838.
Ah, c'est pas.
Mais même vous le connaissez encore aujourd'hui.
C'est pas moi, je le connais.
Alors, il a donné son nom à quelque chose.
Ah, il a donné son nom à quelque chose.
Un théâtre.
Le chef d'orchestre Colonne.
Je ne me souviens plus de son prénom.
Haute Colonne.
Et on a fêté l'anniversaire de l'orchestre Colonne.
Bonne réponse d'Olivier Bellamy. Il s'en sort.
Maurice
Colonne. Non, c'était quoi le prénom alors ?
Il s'appelait Édouard Colonne.
Édouard Colonne. D'ailleurs, près du Châtelet, il y a une rue Édouard Colonne.
Effectivement, Édouard Colonne. Il s'appelait Colonna au départ.
Ouais, c'est ça. Judas Colonna.
Son papa s'appelait Colonna. Sa maman Ferreira. Elle était d'origine portugaise. Lui, Monsieur Colonna était italien. Et effectivement, ils ont eu un garçon qui s'appelait Judas au départ. Et puis, il a ensuite changé de prénom.
Judas. on démarre mal dans la vie quand même.
Il s'est fait appeler Jules Colonne ensuite, puis Édouard Colonne. Et effectivement, on lui doit l'orchestre Colonne et les concerts Colonne. Voilà. Il y a d'ailleurs, à l'occasion, vous avez raison, de cet anniversaire, le 28 avril prochain au Théâtre des Champs-Élysées, un concert anniversaire des 150 ans de l'orchestre Colonne qui porte son nom. C'est comme les orchestres ou les concerts.
Il y a l'orchestre L'Amoureux, les concerts L'Amoureux et les concerts
Colonne.
Voilà, Colonne.
Ça va plus du tout. Ouais, là, vraiment, faut appeler quelqu'un. Faut appeler une ambulance.
Il y en a un autre. Faut que tu fasses une colonoscopie. Hein, ça va plus.
Et ça sera sur les colonnes Maurice.
En tout cas, au Théâtre des Champs-Élysées à 20h le 28 avril. Avril prochain, on célébrera les 150 ans de l'orchestre Colonne. Deux chefs se partageront l'affiche, je ne sais pas si vous les connaissez. Julien Leroy, ça vous dit quelque chose?